en accueillant Savelief, qui nous arrive de Paris et qui va venir nous témoigner depuis son point de vue en tant qu'animatrice à Pax Christi, donc avec un angle différent d'hier. Autant hier, on a beaucoup parlé de guerre et qu'aujourd'hui, on va essayer de parler davantage de paix. Voilà, donc je vous laisse la parole.
Vous m'entendez bien ? Oula. Je crois que ça va. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de venir participer à cette université d'été qui a 18 ans d'existence. Et je suis très touchée de venir aussi pour la première fois dans la région de Toulouse. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Et effectivement, pour parler d'un thème très actuel, celui de la paix. Alors, je vais parler depuis mon point de vue de Pax Christi. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, mais voilà, je voulais vous dire juste un petit mot très rapide dessus parce que je trouve que notre intuition est toujours d'actualité et je trouve ça important de la rappeler. Donc, c'est un mouvement qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'une femme enseignante, laïque, Marc Dortel-Clodot, qui était prof de lettres et qui, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc à l'hiver 44, a reçu dans une oraison silencieuse une intuition de prier pour l'Allemagne. Alors, Marthe avait été résistante pendant la guerre, donc du coup, ça a été difficile pour elle d'accepter cette mission. Au nom de sa foi, elle avait pris des risques pour notamment faire passer des travailleurs juifs en zone libre avec son mari. Et donc, quand le Seigneur lui a demandé d'aimer l'ennemi, en fait, ça a été difficile pour elle. Donc, on voit dans ses carnets spirituels la pédagogie aussi du Christ qui l'a amenée à accepter petit à petit cette mission en lui proposant d'abord de l'aimer lui-même, ensuite d'aimer son corps, son église, d'aimer le clergé allemand et du coup de commencer par prier pour le clergé. Et ensuite d'aimer son corps entier, c'est-à-dire même le peuple allemand qui avait besoin en fait de se purifier, de se sanctifier de ce nazisme. Et donc le message derrière, c'était quand même l'espérance pour les nouvelles générations d'un avenir de paix. Et je trouve que c'est tellement parlant aujourd'hui pour l'Ukraine, la Russie, pour le Moyen-Orient, pour nous hier, voilà, de dire que même quand on est dans des guerres fratricides très difficiles, c'est possible quand même, avec l'espérance de notre foi aussi, d'accompagner ces peuples-là et d'espérer pour eux ce que Marthe a reçu. Donc Pax Christi, on est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde avec l'esprit... la spiritualité de la paix qui repose sur la non-violence active. Et donc, on se base sur un réseau d'à peu près 120 organisations qui travaillent dans les zones de guerre, de conflits, de fractures, pour justement essayer de restaurer les relations, de réconcilier les peuples et les communautés. Et donc, on essaie aussi de porter le message de la paix dans les instances internationales à travers notre plaidoyer. Et donc, moi, je suis déléguée UNESCO pour ma branche internationale, essentiellement sur le dialogue interreligieux, sur l'accès à l'eau et sur l'autonomisation des filles en Afrique. Et au niveau de ma section française, je travaille donc en tant que chargée d'éducation à la paix, qui a été une mission en fait à poser dans la prière. Hein, qu'est-ce que le Seigneur voulait aujourd'hui qu'on fasse pour la paix et de quelle manière ? Donc voilà, c'est tout un travail qui est fait en alliance avec le Seigneur. Et historiquement, notre mouvement se base sur ce qu'on appelle les 5 D, parce que ça commence par un D, c'est-à-dire des prismes qui permettent de travailler à une culture de paix dans n'importe quelle société. La sensibilisation aux droits de l'homme, puisqu'on remet toujours la dignité humaine au cœur des relations, surtout face à un monde qui se déshumanise. Le dialogue et l'éducation à la paix, retrouver la culture du dialogue. On ne sait plus se parler. Et donc, on est souvent dans la communication, on est souvent dans les heurts, mais on n'arrive plus à se parler. Donc, c'est important de retrouver ce chemin de dialogue. Le désarmement et la non-violence qui vont ensemble, Hein, on parlait avec le père Léon de désarmer les cœurs, finalement. Donc c'est ça, Pax Christi, hein, c'est de désarmer les cœurs. On va jusque-là, bien sûr qu'il y a le désarmement à grande échelle, à l'échelle macro, mais il y a aussi à l'échelle micro, ce qui m'habite, ce qui fait ma vie, mon histoire. Comment je désarme mon cœur et les cœurs autour de moi. La défense de la création, parce qu'on cherche une harmonie avec le vivant, on défend une éthique universelle à travers la non-violence active, qui fait qu'on est tous membres de ce grand corps qui est la planète, et le développement solidaire, parce que, comme ce qu'on dit aux jeunes quand on intervient auprès d'eux, on a besoin de ne pas être indifférent à la souffrance des autres et de pouvoir s'ouvrir à ce que les autres peuples peuvent vivre pour aussi les accompagner comme on le peut dans nos moyens et nos circonstances. Alors, je vais vous parler aujourd'hui sur votre thème « La paix aura ton visage ». Ça m'a beaucoup inspirée. Mais je vais vous parler de mon point de vue à moi, qui est celui, bien sûr, de ce travail à Pax Christi, mais aussi de tout le travail de préparation que le Seigneur avait fait aussi dans ma vie avant que j'arrive là, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les droits de l'homme avant, et notamment en tant que médiatrice en accès aux droits pour les migrants, des demandeurs d'asile et réfugiés, notamment russophones, puisque je suis d'origine russe, et plus spécifiquement encore tchétchènes musulmans. Voilà. Donc ça a été une grande aventure humaine de m'immerger dans cette communauté, de l'accompagner pendant plus de 12 ans, je continue encore à le faire, et donc de voir un petit peu, de plonger dans cette patte humaine et de comprendre mieux comment le Christ regarde ces personnes. Et c'est ce que j'aimerais un petit peu vous partager aujourd'hui, et puis on pourra ensuite réagir par rapport à si vous avez des questions. Petite précision aussi, j'ai été baptisée adulte, et donc j'ai fait tout un chemin de conversion qui aujourd'hui m'habite pleinement, et donc qui a eu avant et après la foi, même si le Seigneur avait déjà, bien sûr, mis les petites lumières sur la route, mais en tout cas, il y a un avant et un après la conversion. Et donc, mon travail à Pax Christi est aussi dans ce désir de travailler en communauté chrétienne sur la question de la paix, après avoir travaillé avec beaucoup de victimes de guerre et voir les conséquences sur l'humain de ces conflits armés. Donc, j'ai intitulé ma conférence « La paix aura ton visage ». Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de sujet. Et voilà, on va se plonger un petit peu dans cette réflexion que j'ai pu avoir. Et quand j'ai réfléchi à la formulation « La paix aura ton visage », j'ai été en premier lieu étonnamment attirée, non pas par le terme de paix, comme je le supposais, puisque c'est mon travail, mais plutôt par le terme de visage. Et pourquoi ? Eh bien parce que je me suis dit que spontanément, j'ai pensé que ce serait l'occasion pour nous, justement, de réfléchir ensemble sur le visage du Christ. Rappelons-le, Jésus nous dit dans l'Écriture, Jésus signifie Dieu sauve. Et donc, s'intéresser au visage de Jésus est une œuvre de contemplation qui nous amènera forcément à réfléchir à ce que signifie profondément la paix. Et c'est dans cet ordre-là que je crois nous devrions construire notre réflexion. Donc en s'attardant sur le visage du Christ, nous nous attardons de fait sur le visage de la paix attendue de nous et de la paix souhaitée pour le monde. Et du monde tel qu'il est, qu'il se présente à notre génération, tout comme Marthe à l'époque, avec ses défis, avec ses dérives, avec ses péchés, mais aussi avec ses opportunités. Donc, si vous le voulez bien, je vais essayer de tenter de répondre à une question que j'ai formulée de la manière suivante. Quel visage nous a montré le Christ lors de sa venue sur terre et comment le relier à la paix ? Donc, une question qui a l'air au premier abord assez simple, mais qui, vous allez le voir, s'avère bien plus complexe et exigeante qu'il n'y paraît, et surtout en termes de conversion pour nous-mêmes. Donc, les évangiles seront évidemment la source privilégiée pour nous dévoiler ce qui est dit du visage du Christ, de ses caractéristiques, de ses attributs, mais aussi toute la réflexion que j'ai pu avoir en rédigeant cette conférence et inspirée de l'expérience que j'ai pu avoir humaine avec les personnes. Donc, dans une première partie, je vous propose une contemplation du visage du Christ à la lumière des Écritures. Une deuxième partie sur être visage du Christ dans le monde. Et une troisième, plus brève, qui sera consacrée aux fruits que porte la rencontre entre le monde et le visage du Christ. Bonne écoute. Alors, première partie, contemplons le visage du Christ. Alors, j'aimerais faire deux remarques préalables avant de me lancer dans la petite analyse de texte que je vais vous proposer. Première remarque, dans l'Évangile, il est de fait très peu question des expressions du Christ. Il n'y a pas de mention dans les Écritures d'un Christ souriant, d'un Christ riant, d'un Christ au visage abattu ou fatigué. Jésus a été, nous le savons, dans la joie, hein, sous l'effusion de l'Esprit-Saint. Il a été fatigué, il a été dans le désarroi. Mais bien souvent, ces épisodes-là ne sont pas comptés à travers la focale du visage. Ce n'est pas comme au cinéma, hein, mais plutôt à travers celle de la parole. Et on sent que rien que dans la rédaction des faits qui exposent la vie de Jésus sur terre, il est Verbe de Dieu, essentiellement incarné par les paroles qu'il a prononcées et par les enseignements qu'il a donnés. Donc une première remarque qui nous indique que le visage, bien que le premier élément que nous voyons chez une personne, n'est finalement que ce qui appuie, ce qui se met au service d'une parole. Donc première remarque. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Nulle part dans l'Évangile, il n'est fait mention de la beauté du Christ. La beauté n'est pas un élément qui est mis en avant, ce qui, me semble-t-il, nous dit quelque chose aussi de l'importance à donner à deux autres éléments qui, eux, sont utilisés pour parler du Christ. Il s'agit de la grâce et de la lumière. Ce qui signifie que la sainteté a sa propre beauté, qui est caractérisée davantage par la lumière de la grâce plutôt que par des traits physiques, même s'ils sont harmonieux. Deuxième remarque qui nous permet de déjà déplacer notre regard et de considérer autrement tout type d'apparence physique. Ce regard-là est ouverture vers la paix. Alors, il existe tout de même des passages qui mettent en lumière des éléments du visage du Christ, et on constate dans les quatre évangiles que le plus fréquemment, il est fait mention du visage de manière détournée, à travers notamment le traitement du regard, qui est l'élément du visage le plus mentionné dans les Écritures. Et donc, je vais commencer par contempler avec vous le visage du Christ à travers le prisme de ce regard. Comment Jésus regardait-il le monde et les hommes ? Quelles sont les caractéristiques de ce regard divin sur l'homme ? Que peut-on apprendre des Écritures sur la manière de regarder du prince de la paix ? En un mot, comment la paix passe-t-elle par le regard ? Premier élément essentiel, il s'agit d'un regard qui transmet l'amour et rend l'homme objet et sujet d'amour. En Marc 10, verset 21, nous faisons la connaissance de l'homme riche, ce personnage en quête de vérité que Jésus va vouloir toucher de son regard. Le texte nous dit « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Ici, le sentiment d'amour est déclenché par le regard, d'où l'importance pour nous de prendre le temps de regarder autrui. Jésus, dans sa manière de regarder cet homme, voit en lui au-delà de ce que ce dernier pourrait voir ou comprendre de lui-même. Dieu regarde l'homme par le biais de nos regards humains. Notre regard peut en effet être saisi par celui de Dieu, devenir ainsi canal par lequel Dieu fait comprendre à l'autre sa valeur et le fait qu'il est aimé. Ici, Jésus encourage l'homme riche à se libérer de ce qui l'entrave. C'est par cet appel à une plus grande liberté qu'il manifeste son amour. Question pour nous. Notre regard est-il ou a-t-il déjà été instrument d'amour pour autrui ? Notre regard invite-t-il l'autre à grandir, à franchir, tout comme l'homme riche, un pas de foi, ou à grandir en liberté ? C'est là que doit se jouer notre discernement. Deuxième élément qui caractérise le regard de Jésus est qu'il est lieu d'incarnation de la compassion divine. Il s'agit d'un regard qui s'adresse plus particulièrement à l'homme qui s'est égaré et à l'homme qui souffre. En effet, Jésus explicite à plusieurs reprises la compassion qu'il éprouve face aux foules sans berger, mais également face aux personnes éprouvées par la vie et les épreuves. Dans Luc au chapitre 6, verset 13, c'est en voyant la femme endeuillée de Naïn, la veuve endeuillée de Naïn, que le Seigneur est pris de pitié pour elle et qu'il permet ensuite la résurrection de son fils. En Luc 21, verset 1, Jésus remarque la veuve miséreuse, donnant de son nécessaire alors que tous donnent de leur superflu. Il s'agit là d'un regard attentif aux plus petits, aux marginalisés, et marqué du sceau de la justice divine. Ce regard est compassion, propre à un Dieu de miséricorde dont les entrailles sont touchées par la misère de l'homme. Et c'est encore plus frappant lorsqu'on essaie de le comparer à d'autres regards qui, pour une même situation, donnent des résultats complètement autres. Pensons par exemple à Luc 7, verset 39, lorsque le pharisien Simon invite Jésus chez lui à manger. Sa manière de regarder la femme qui fera preuve de bonté envers Jésus nous enseigne comment agit le mal dans un regard qui se trompe d'objet. Aveuglé par son jugement de valeur, le pharisien ne voit pas la bonté du geste de la femme, mais se concentre uniquement sur ce qu'il a entendu dire d'elle. Ce processus a pour conséquence de retirer la grâce de l'action et de transformer le bien en mal. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, cette pécheresse. Jésus rétablit la vérité de la bonté et le juste jugement en intervenant, indiquant notamment que c'est regarder celui qui voit là où se joue l'enjeu, à savoir dans la bonté du cœur et non dans l'apparence. Question pour nous, portons-nous parfois des regards injustes et réducteurs sur autrui ? Osons-nous demander la capacité de reconnaître ce qui plaît à Dieu dans une situation ? C'est une grâce que nous pouvons demander. Il existe un autre regard similaire à celui du Christ porté par un personnage de l'Évangile autre que Jésus. Il s'agit du bon samaritain, qui nous montre que n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut aussi devenir instrument du divin et devenir conforme au Christ. À l'instar de Jésus lui-même, le bon samaritain passe à côté de l'homme souffrant, le voit et immédiatement en a compassion, nous dit Luc au chapitre 10, verset 33. On remarque ici la reprise du schéma christique d'un regard entraînant tout de suite une action, donnant la vie et relevant. Troisième élément, le regard du Christ est vrai et authentique. En Christ, il y a parfait alignement entre cœur, regard et parole. Regard et parole étant en fait reflet du cœur et de l'intention du cœur qui est toujours lié chez Jésus au salut des âmes. Face aux pharisiens qui refusent la guérison de l'homme à la main sèche le jour du sabbat, le Christ ose montrer publiquement un regard de colère. En Marc 3, verset 5, le texte nous dit « Après avoir promené son regard sur eux, avec colère, il dit à l'homme, étends la main. » Contrairement aux pharisiens qui complotent, murmurent intérieurement ou à l'abri des regards, le Christ est dans la lumière. Il manifeste une colère authentique aux yeux de tous. Autre exemple, face à l'endurcissement de Jérusalem, qui refuse d'accueillir la paix que Dieu lui offre, Jésus verse des larmes de tristesse. En Luc 19, verset 41, on peut lire « En voyant la ville, le Christ pleura sur elle. » Ceci peut nous aider à répondre à une question que peut-être certains d'entre nous se posent, à savoir faut-il toujours faire bonne figure pour être semblable au Christ ? On voit bien qu'avec ces deux exemples, la réponse est non. Il est parfois nécessaire, et plus spécifiquement face à l'endurcissement des cœurs, de montrer sa colère et sa tristesse pour rester vrai et authentique à l'image du Christ. Quatrième élément, le regard du Christ est agissant. Systématiquement, Jésus voit et agit immédiatement. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, verset 14, Jésus voit la belle-mère de Pierre, la touche, et il s'ensuit une guérison immédiate. En Matthieu, chapitre 9, verset 1, Jésus voit la foi des quatre hommes portant le paralytique, prononce une parole qui ouvre la voie vers le miraculeux et la guérison. En Matthieu 9, verset 9, Jésus voit Matthieu à son bureau de collecteur d'impôts, il prononce une parole pour l'appeler à une action qui est de le suivre. En Luc chapitre 19, verset 5, Jésus voit les lépreux et leur ordonne de se montrer au prêtre. Même à la croix, ce schéma persiste. Jésus voit sa mère, à côté d'elle le disciple qu'il aime, prononce une parole qui marquera la fondation de l'Église terrestre. « Femme, voici ton fils, et aux disciples, voilà ta mère. » Le regard, le sens de la vue, entraîne toujours une parole liée à une injonction à revivre ou à connaître la vie plus profondément. Le Christ, par son regard, contemple les visages, identifie les besoins immédiats, passe à l'action et enseigne même ses disciples à le faire. Dans l'épisode de la multiplication des pains, en Jean 6, verset 5, le Christ interpelle Philippe après avoir vu la foule fatiguée et affamée, en lui demandant comment il compte les nourrir. Il essaye donc, par là même, d'éveiller la conscience de Philippe au fait de devoir voir et agir. Jésus nous pousse à ne pas être indifférent, à ne pas être passif. Il nous pousse à ce que notre regard devienne un déclencheur d'action pour soi-même et pour les autres, et ce même lorsque cela nous semble impossible ou au-delà de nos forces. Question pour nous, avons-nous ressenti parfois un élan de l'Esprit-Saint nous invitant à l'action et que nous avons ignoré? Il s'agit de motions intérieures subtiles et brèves, comme un murmure qui éveille l'âme pour qu'elle fasse le bien. C'est souvent par notre obéissance que Dieu soulage et répond aux prières d'autres âmes. Sommes-nous conscients de l'importance de notre regard? Est-il porteur de vie pour l'autre? Amène-t-il à une action immédiate? Cinquième élément, le regard du Christ enseigne. À plusieurs reprises, le Christ utilise son regard pour appuyer un enseignement et le rendre avec autorité en instaurant par le regard une forme de solennité. En Matthieu chapitre 19, verset 26, Jésus dit à ses disciples « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible », les invitant ainsi à une foi plus profonde et agissante. Ce regard crée de fait un espace où l'enseignement est semé dans l'âme de manière pérenne. Autre exemple, revenons à l'homme riche, auquel Jésus donne un enseignement sur les richesses afin de pousser cet homme à aller au-delà de ses sécurités matérielles. Le texte dit, en le voyant, Jésus dit « Combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront dans le royaume de Dieu ?» Il peut effectivement arriver que l'Esprit-Saint nous pousse, nous aussi, à dire un enseignement pour marquer une âme. Question pour nous, l'accompagnons-nous alors de notre regard? Avons-nous déjà goûté à ce regard spécifique à un moment d'enseignement? Et si ce n'est pas le cas, c'est une grâce que nous pouvons demander. Sixième élément, le regard du Christ précède la vocation. Ces moments solennels peuvent également précéder une vocation et un appel. En Jean 1, verset 42, c'est après l'avoir fixé du regard que Jésus dit à Pierre « Tu es Simon, fils de Jean, je t'appellerai Céphas », ce qui se traduit Pierre. En Jean 1, verset 48, Jésus dit à Nathanaël « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu », indiquant là un regard qui voit en l'autre une vocation de disciple à l'avenir. Question pour nous. Nous arrive-t-il que Dieu nous donne de voir en l'autre un charisme, une vocation particulière et la mission de la lui révéler? avons-nous un regard qui croit en l'autre et qui lui permet, par notre regard, de croire en lui. Dernier élément, le regard du Christ a autorité et délivre. Le regard de Jésus chasse le démon. En Luc 9, verset 38, un homme au fils possédé d'un esprit impur demande au Christ de regarder son fils pour le libérer et parvenir à la guérison. La simple présence du Christ fait réagir les esprits impurs qui, eux, le connaissent. Question pour nous, avons-nous conscience qu'un regard de foi peut amener le calme et la paix à des esprits agités par le doute, le mensonge ou les mauvaises pensées? Le regard du Christ est donc un outil de discernement qui, comme je le disais, nous appelle à la conversion. Là où nous sommes amenés à voir de nombreuses choses chaque jour, le regard du Christ est spécifique dans ses fonctions lorsque cela concerne l'humain. Son regard est instrument puissant pour aimer, compatir, relever, guérir et exhorter, même sévèrement à certaines occasions. Et ce qui rend ce regard pur est l'intention qui l'accompagne, qui est toujours celle de sauver. Alors, comment être regard, être visage du Christ dans le monde ? Comment incarner ce visage dans notre monde actuel ? Comment apprendre aux autres à regarder les réalités et les personnes ? Comment répondre à l'appel du Christ qui est de devenir artisan de paix et de justice ? Je commencerai cette partie en évoquant l'épisode de la Passion, celui où l'identité du Christ est sublimée et qui nous donnera, vous allez le voir, le fondement de notre rapport au prochain. Lors de la Passion, le visage du Christ devient lieu de révélation du péché des hommes, commençant par la trahison et finissant par l'opprobre. En Matthieu 26, verset 49, le visage du Christ reçoit le baiser de Judas, qui marquera le commencement d'une série d'humiliations concentrées sur son corps et qui toucheront aussi son visage. À deux reprises, il est fait mention, par les évangélistes Matthieu et Marc, du crachat infligé au Christ alors qu'il est fait prisonnier. À deux reprises également, de la gifle qui soufflera son visage. Le visage du Christ violenté, reflet de l'image du Père rejeté par la foule ignorante et par les pharisiens endurcis, est l'image de tous les hommes qui subissent en ce monde les affres de l'humiliation et de la déshumanisation. Là où le visage du Christ, à travers son regard, rend justice, le visage de celui qui a le cœur endurci ou un cœur ignorant engendre tout à la fois injustice et violence. Question pour nous, arrivons-nous à voir le visage du Christ dans le frère victime d'injustice? C'est en reconnaissant la présence du Christ dans le frère que le chrétien peut devenir artisan de paix et servir le royaume là où il se trouve, en alliance avec Dieu. Lors de son discours adressé aux jeunes du monde entier, lors de l'année jubilaire sur la miséricorde divine, le pape François disait « Pour nous aujourd'hui et ici, provenant de diverses parties du monde, la douleur, la guerre que vivent de nombreux jeunes ne sont plus une chose anonyme. Pour nous, elles ne sont plus une nouvelle dans la presse. Elles ont un nom, elles ont un visage, une histoire, une proximité. La contemplation du visage du Christ nous amène forcément, en tant que chrétiens, à aller vers les visages de nos frères et sœurs en humanité. » Et le Seigneur, dans son immense sagesse, nous a enseigné qu'à travers le visage du frère, et plus particulièrement du frère souffrant, se reflèterait son propre visage. Nous devons porter et vivre cette vérité, qu'en allant à la rencontre de l'autre, on rencontre de fait le Christ. Nous devons porter et vivre cette vérité qu'il n'y a pas que la prière silencieuse ou communautaire pour connaître Dieu, mais qu'il faut accepter d'aller sur les chemins de la rencontre pour pratiquer l'Évangile et connaître Dieu à travers les grâces données aux frères. Selon notre propre histoire personnelle, la rencontre humaine peut être source de joie ou au contraire un défi ou une cause de difficulté. Le Christ nous invite à dépasser ces freins en parvenant à voir dans le visage de l'autre son propre visage et à le laisser nous conduire dans la découverte des vertus et des trésors que Dieu a cachés dans le frère en question. La rencontre n'étant pas exempte des signes du péché qui peuvent repousser, nous faire douter ou parfois entraîner des ruptures, il peut arriver qu'une rencontre doive, à un moment donné, passer par les affres du conflit et de l'épreuve. Outre les conflits et relations toxiques, desquels nous devons impérativement nous protéger, il n'est pas impossible que certaines relations se renforcent après avoir été éprouvées par une situation qui aura révélé des modes de fonctionnement divergents ou un péché caché. Disons-le au monde, le visage du Christ se cache dans le visage du frère et à travers lui se révèle un autre visage, jamais observé mais toujours présent, celui du Père et du Père miséricordieux. Le message puissant de la miséricorde divine a été révélé à Sainte Faustine de Kowalska en des temps similaires aux nôtres, où la charité s'était tarie, la guerre était proche, et la réponse divine à cela a été d'insister sur l'engagement des chrétiens pour la miséricorde. La miséricorde, porte étroite permettant de restaurer l'humanité, rend l'extraordinaire divin participant de l'ordinaire humain. Les Écritures nous enseignent ce que sont les œuvres de miséricorde et qu'il est souvent nécessaire de se rappeler. 14 gestes, corporels et spirituels, comme un chemin pour aller à la rencontre de l'autre avec le bon regard et le visage du Christ. Le pape François, s'adressant à l'Église lors du jubilé, avait dit « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse aux œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. » Alors que beaucoup se posent la question, en ces temps troublés, de ce qu'ils peuvent faire pour protéger la paix et la cultiver, voici une voie exigeante en humanité et qui laisse plein espace de créativité à l'Esprit de Dieu pour nous conduire chaque jour vers les personnes à aimer et les actes à réaliser. On peut nourrir un frère affamé en lui donnant de la nourriture physique ou abreuver d'eau un frère assoiffé. Mais n'oublions pas, à l'image de ce qu'avait reçu Sainte Mère Teresa dans les rues de Calcutta, que les cris du frère dans un « j'ai faim » ou « j'ai soif » relèvent aussi de la nourriture spirituelle et tout simplement de ce regard d'amour et de tendresse du Christ dont nous avons parlé longuement dans la première partie de cette conférence. Accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, voilà des œuvres qui mettent nos forces physiques et notre capacité à aimer au service de ceux qui vivent une épreuve, qui sont eux-mêmes confrontés à leur faiblesse. En Ésaïe 42 au verset 3, on peut lire que le serviteur qui plaît à Dieu ne brisera point le roseau cassé, qu'il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, qu'il annoncera la justice selon la vérité. Prendre soin de la faiblesse humaine, dénoncer la violence structurelle qui opprime, déshumanise, voilà la mission de tout baptisé qui est à la fois prêtre, roi et prophète. L'épreuve de l'exil, de la maladie, de l'emprisonnement, du deuil, sont des espaces privilégiés, nous dit le Seigneur, pour semer l'amour et la tendresse du Christ, pour pacifier des blessures profondes et y mettre le baume d'une présence et d'un accompagnement autre que celui proposé par le monde. Jésus est un compagnon de route qui accompagne l'humanité différemment. Et il nous donne la clé du royaume ici-bas en nous invitant à l'imiter en allant à la rencontre de ceux dont la vie est éprouvée. Si l'on fait l'acte de foi que chaque jour est lieu de la volonté divine et que nous acceptons généreusement de nous abandonner à cette volonté, nous verrons alors ceux pour qui nous prions apparaître au cœur de nos vies, pour transformer la prière et les bonnes intentions en actes d'amour et de vérité. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà les œuvres de miséricorde spirituelle qui, nous le voyons bien, peuvent s'installer dans notre quotidien à travers l'ordinaire d'une rencontre. D'où l'importance, comme nous le disions précédemment, d'apprendre à voir à la manière de Jésus et de saisir et discerner, comme pour la femme pécheresse chez le pharisien, ce qui relève dans une situation banale de la volonté et de l'appel de Dieu, puisque nous l'avons dit, ce dernier insuffle de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est bien souvent dans l'ordinaire d'une rencontre que Dieu attend de nous de pratiquer la miséricorde, un objectif souvent plus important que ce qui se joue dans le prétexte de la rencontre elle-même. Comprendre l'enjeu de ce qui se joue à cet instant-là, comprendre ce que Dieu veut dire à l'âme en face de nous, est une manière de participer, de rentrer dans l'œuvre de salut de Dieu. Les œuvres de miséricorde requièrent du chrétien un cœur à l'image du Christ, humble et doux. Là où le monde répond à la violence par plus de violence, rajoutant de la peine à la douleur, le Christ, lui, éteint, apaise, console, relève. Il revient donc à chacun de faire preuve de créativité dans les œuvres de charité, d'oser s'approcher du pauvre, d'inventer les visages de la miséricorde et de la paix qui consisteront à rendre à l'autre sa dignité et son visage humain. Alors, pour terminer cette conférence sous le signe de l'espérance, j'aimerais étudier les fruits observés dans les évangiles qu'apporte le visage et la personne du Christ aux personnes qui le rencontrent. Ceci nous donnera la direction à suivre, la motivation à agir et la conviction que Christ est réponse pour notre monde. Le premier fruit observé est celui de la joie. Le visage du Christ reflété sur nous donne bonheur et joie aux autres. Pensons à la joie ressentie par les mages lorsqu'ils virent l'étoile indiquant l'emplacement de la naissance du Messie. La joie est fruit de la rencontre avec Dieu. Elle est aussi une arme spirituelle puissante pour maintenir la paix et la faire fructifier. Le deuxième fruit est la lumière. En Matthieu 4, verset 16, le Christ apporte la lumière au peuple qui vivent dans les ténèbres. Une lumière pour le monde, la lumière du monde, telle que le mentionne l'évangéliste Jean au chapitre 8, verset 12. La lumière comme image d'une source, d'un repère qui attire et pacifie. Notons l'attirance irrésistible de la lumière. La lumière attire sans contraindre. La lumière fait croître sans violence. La lumière restaure sans épuiser. Au psaume 31, verset 17, le psalmiste demande à Dieu « Sur ton serviteur que s'illumine ta face », signe de la communion désirée avec Dieu qui rend le visage lumineux et phare pour ceux qui cherchent la lumière. Tout visage transformé où se reflète la lumière de Dieu participe à un plan d'amour où Dieu en choisit toujours un pour une multitude. Une lumière qui trouvera son paroxysme dans l'épisode de la Transfiguration, nous amenant au troisième fruit porté par la rencontre avec le Christ, l'occasion de voir la gloire de Dieu. La gloire réjouit, car elle est manifestation de l'œuvre de salut. Siméon professera dans son cantique jaillissant de la rencontre avec le Christ « Mes yeux ont vu le salut » Luc 2, verset 30. Voir Dieu signifiait dans l'Ancien Testament de mourir, alors que là, non seulement les yeux voient et vivent, mais la bouche proclame le salut pour tous les hommes. Question pour nous, quel effet produit sur les autres notre présence et notre rencontre ? Pensons-nous que chaque rencontre, désirée ou non désirée, est décidée par les conséquences que Dieu nous offre et qu'elle est orientée vers nous pour une mission précise ? soit de conversion, soit de témoignage, soit de charité, soit de travail des vertus. À l'instar de Jésus qui a vécu une vie itinérante, qui a aimé l'homme plus que sa vie et qui a choisi de pardonner aux pécheurs pour leur ouvrir la porte du ciel, mettons-nous nous aussi en route pour sillonner les chemins de nos vies à travers le regard que Jésus incarne en nous. Je vous remercie.
On a beaucoup de questions qui nous ont été posées. On va vraiment avoir de quoi méditer. Donc on va prendre un petit temps en petit groupe pour essayer de faire un peu descendre tous dans notre cœur ce qu'on a entendu. On va se répartir en 4 groupes et on va se donner jusqu'à... Ben on est à peu près dans les temps, jusqu'à 4h30. On se retrouve à 4h30 pour le...